Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier. Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus, de manière totalement transparente.
Fatigué, confiné, mais rassurant sur son état de santé, Emmanuel Macron a donné de ses nouvelles dans une vidéo et mis en garde. Le virus repart, prévient le président. Un rebond au plus mauvais moment, début ce soir des vacances de Noël. Comment concilier détente et gestes barrières? Du comportement des Français dépendra la suite. Les 15 jours qui viennent seront décisifs. Nous irons aux États-Unis où l'administration Trump n'est plus à un paradoxe près. Elle minimise les effets du Covid tout en se félicitant de l'arrivée d'un deuxième vaccin. Mission réconciliation, les syndicats policiers opposés au Beauvau de la sécurité ont été reçus et cajolés par Gérald Darmanin. Dans ce journal également, une révolution en Espagne, le pays va devenir le sixième au monde à autoriser l'euthanasie. Les tarifs des assurances auto varient du simple au double selon votre département. Et puis les handballeuses françaises, une nouvelle fois brillantes, elles sont en finale de l'Euro. Le temps de demain, plus agité avec le passage d'une perturbation pluvieuse, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,39% à 5 527 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes, c'est le début des vacances scolaires. Est-ce que les Français seront nombreux à partir pour les fêtes? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité, Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Opération Transparence. Emmanuel Macron a donc ce soir donné de ses nouvelles. Confiné dans sa résidence de la Lanterne à Versailles, le président s'est adressé aux Français dans une vidéo filmée avec son smartphone.
Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui. Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus. Je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. Pour le reste, je continue à gérer les affaires courantes. J'ai une activité qui est un peu ralentie aussi. Mais les dossiers prioritaires, je continue à m'en occuper, qu'il s'agisse de l'épidémie ou par exemple du dossier du Brexit. Je voulais aussi vous passer un message pour vous, pour nous. Continuez vraiment à faire attention. Hier avec moi, il y a eu 18 000 Françaises et Français qui ont été testés positifs. Donc le virus repart, encore plus fort. Donc vraiment, j'en appelle à chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vous. Et donc nous allons tous ensemble résister. Le vaccin va arriver, nous allons continuer de nous organiser.
L'appel à la prudence d'Emmanuel Macron alors que les vacances de Noël viennent de débuter. Un soulagement pour beaucoup, fatigués, épuisés par ces derniers mois harassants. Et pourtant, on le sait, ces fêtes s'annoncent différentes en raison du contexte épidémique. Tout le monde a bien conscience que ce ne sera pas comme d'habitude. Et dans les familles, chacun s'organise pour que, malgré les contraintes, la détente soit quand même au rendez-vous. Benjamin Péter.
Oui, et pour beaucoup, à la sortie de l'école, c'est un soulagement. Enfin, on va pouvoir se retrouver en famille et profiter un peu.
Ça va, ma puce?
Oui, ça va. C'est la vacance.
T'es contente?
Oui, parce qu'on va avoir des cadeaux à Noël.
Et surtout, on va avoir papy et mamie.
Oui, papy et mamie.
Et chez Sarah et Céline, sa maman, le remède, ce sera de chanter pendant les vacances.
On va chanter faux, mais on va chanter. On va faire des karaokés, on va chanter des chants de Noël et puis...
Ça va faire du bien.
Ah ouais, ça va faire du bien, ouais. On va aussi faire un bon repas, c'est une parenthèse là. Pour oublier un peu ce climat qui est très tendu, qui stresse tout le monde. Puis là, ils sont fatigués, hein, mine de rien.
Alors quel protocole sanitaire adapté avec ses proches? C'est une question que tous ont en tête. Rester confiné, se faire tester, une solution qu'envisage Samir qui part rejoindre ses parents dans les Pyrénées.
Moi je suis déjà confiné, je suis restaurateur, je travaille pas, donc j'ai des contacts juste avec mes enfants, je croise personne. Et donc il y a peut-être cette idée-là de se faire tester avant vis-à-vis des parents qui sont plus âgés, donc pour la semaine prochaine, quelques jours avant de partir.
Et avant de les voir pour être sûr.
Voilà, c'est ça.
Mais ses parents, ses familles espèrent surtout mettre un peu de féerie dans ces deux semaines de fête après une année très angoissante pour leurs enfants.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. On vient de l'entendre, ce que tout le monde redoute, c'est de contaminer ses proches. La demande de tests a d'ailleurs fortement augmenté ces derniers jours. Il faut dire que les derniers chiffres ne sont pas rassurants. Le virus repart, a dit ce soir Emmanuel Macron. Près de 16 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. La barre des 60 000 morts a été franchie ce soir. Des chiffres qui pourraient exploser après ces congés de fin d'année. Evroger, c'est vraiment ce que redoutent les autorités.
Et oui, prudence, 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 c'est le mantra du gouvernement qui espère que les Français ont bien compris le message de Noël.
La bamboche, c'est terminé.
Car en effet, en 2020, c'est un réveillon à 6 maximum avec masque, gel, tests et distance physique. Notre avenir est entre nos mains, a confirmé ce matin Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique. Car si relâchement il y a, début janvier autour du 10, vous l'avez dit, il se lira dans les chiffres de contamination. Aujourd'hui, il tourne autour de 16, 18 000 nouveaux cas par jour. Il ne faudra pas qu'ils augmentent trop dans les deux prochaines semaines, car vous connaissez le risque. La fameuse troisième vague, si redoutée. Mais le président du conseil scientifique se veut optimiste. Si on prend le mal à la racine, c'est-à-dire dès le début du mois de janvier, si le gouvernement prend des décisions à la hauteur de notre éventuel relâchement, alors on peut encore l'éviter, quitte à retarder la réouverture des restaurants, et à condition d'éviter un obstacle plus redoutable encore, le cœur de l'hiver et ses conditions si favorables au virus, le froid, l'humidité, l'absence de vent et de soleil.
Merci Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Il n'est pas nécessaire de vacciner systématiquement les personnes ayant déjà développé une forme symptomatique du Covid. C'est l'avis étonnant rendu ce soir par la Haute Autorité de Santé. La HAS avait pourtant affirmé le contraire au début du mois. Elle avait estimé alors que les personnes déjà infectées ne devaient pas être exclues de la campagne de vaccination. La raison de ce revirement, le très faible nombre de personnes qui ont été infectées à deux reprises par le virus, seulement une dizaine de cas dans le monde, estime la HAS. Le Premier ministre slovaque testé à son tour positif au Covid, une semaine après avoir assisté au sommet de l'Union européenne. Une contamination qui renforce les soupçons de l'Élysée. Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est possiblement à Bruxelles que le président a été infecté. La Suisse serre la vis. Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui une nouvelle série de mesures restrictives pour enrayer l'épidémie. À partir de mardi, les restaurants, établissements culturels et sportifs devront fermer leurs portes jusqu'au 22 janvier minimum. En revanche, les stations de ski resteront ouvertes. Le taux d'incidence en Suisse est trois fois plus élevé qu'en France. Et puis la situation est encore pire aux États-Unis. Le pays fait face à une flambée suite à la grande fête familiale de Thanksgiving il y a trois semaines. Chaque jour, de nouveaux records, 250 000 infections hier et plus de 3 000 morts. Et c'est dans ce contexte que le vice-président Mike Pence s'est fait vacciner aujourd'hui. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Vaccination en grande pompe et devant l'objectif des caméras. Hein.
Oui, et à une heure de grande écoute, en pleine matinale, le vice-président a été vacciné en compagnie de sa femme et de l'administrateur de la santé publique américaine. « Je n'ai rien senti, bien joué », ce sont les premiers mots de Mike Pence. Il a salué le travail des chercheurs et des médecins et tenté de rassurer les Américains.
L'espoir est en marche. Ne vous méprenez pas, c'est un miracle médical. Et je crois que l'histoire se souviendra de cette semaine comme le début de la fin de la pandémie de coronavirus. Les Américains peuvent être confiants, nous avons un vaccin sûr et sans danger, et peut-être un deuxième dans les heures qui viennent pour vous et votre famille.
Alexis, le second vaccin dont parle Mike Pence, c'est celui de Moderna. Et ce soir, Donald Trump a pris les devants et a annoncé son autorisation.
Oui, et ça fait partie des paradoxes de cette administration Trump. Minimiser la réalité de la pandémie tout en se félicitant de l'arrivée du vaccin. Alors dans un tweet ce matin, le président a expliqué que le vaccin de Moderna a été largement approuvé et que la distribution allait commencer immédiatement. Mais dans les faits, on attend l'accord officiel dans la journée de la FDA, l'agence des médicaments. Si le feu vert est donné, ce sont près de 6 millions de doses supplémentaires qui vont s'ajouter au stock américain dès la semaine prochaine. Et Mike Pence, ce matin, a rappelé l'objectif de la Maison-Blanche, vacciner 20 millions d'Américains d'ici la fin de l'année.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, où on a appris il y a quelques minutes que Donald Trump a appelé Emmanuel Macron pour lui souhaiter un prompt rétablissement.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Opération déminage aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin a reçu les syndicats de policiers et de gendarmes, très remontés après les propos du président sur les contrôles aux faciès. Objectif, les convaincre de participer en janvier au Beauvau de la sécurité. Alliance et l'UNSA avaient fait savoir que c'était niette, une position qui va peut-être évoluer, Justin Morin.
Effectivement, les représentants des deux syndicats sont sortis globalement satisfaits de leur entretien avec le ministre. Gérald Darmanin leur a donné sa parole sur certains points essentiels, des subventions pour payer une partie de la mutuelle des policiers, la gratuité des transports à l'horizon 2022 par exemple, des engagements qu'attendait le syndicat Alliance, majoritaire chez les gardiens de la paix. Mais Fabien Van Emmerich, le secrétaire général, laisse encore planer le doute sur sa participation au Beauvau de la sécurité.
On n'est pas du genre à croire au Père Noël, donc on nous a fait des mesures concrètes. Maintenant, il y a la mise en application de ces mesures.
mesures. Et une fois qu'on aura ça, on verra si on participera à ce grand débat de la sécurité.
Le ministre de l'Intérieur voulait aussi convaincre l'UNSA Police, notamment ce qui concerne la réécriture de l'article 24 de la loi Sécurité Globale, article qui concerne le floutage des policiers. Olivier Varlet, le secrétaire général du syndicat, confie qu'il en a bien été question.
Le ministre nous a confirmé aujourd'hui que cet article n'était pas enterré, qu'il était toujours d'actualité et que ça ferait partie des discussions. Pour nous, l'UNSA Police, c'est un des éléments clés qui fera qu'on participe à cette instance ou pas.
Donc, il y a eu un pas en avant, mais pour l'instant, rien n'est acté. Désormais, les deux syndicats attendent un courrier écrit de leur ministre en début de semaine prochaine pour prendre leur décision.
Justin Morin, du service police-justice d'Europe 1. 4 personnes ont été interpellées en début de semaine dans l'enquête sur l'attaque au hachoir perpétrée fin septembre à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Ces 4 hommes, tous d'origine pakistanaise, sont soupçonnés d'avoir été informés du projet de l'assaillant et de l'avoir incité à passer à l'acte. Après les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, un nouveau pays européen s'apprête à légaliser le droit à l'euthanasie. Ce pays, c'est l'Espagne, et ce, malgré l'opposition de l'Église et de la droite, les députés ont voté en faveur de cette mesure. Henri de Laguérie, vous êtes notre correspondant sur place, mesure plébiscitée par les Espagnols.
Oui, car ici le débat avait été relancé l'année dernière avec le geste de cet homme à Madrid qui avait filmé le suicide assisté de son épouse atteinte de la sclérose en plaques. Sur cette question de société comme sur d'autres, les mentalités ont changé, se félicite Lluís Rabell, ancien député de Podemos classé à gauche.
Il faut dire qu'en Espagne, on a vu l'adoption de toute une série de lois avancées. La loi contre les violences faites aux femmes en 2004, la loi qui permet le mariage entre personnes du même sexe, différentes dispositions qui prouvent que la société espagnole est évolue et par conséquent c'est une bonne nouvelle dont on ne peut que se réjouir.
L'euthanasie sera possible en cas de maladie grave ou incurable. La demande du patient devra être validée par 2 médecins, puis par une commission. En cas d'incapacité physique, un représentant légal pourra en faire la demande à la place du malade, si celui-ci, bien sûr, a rédigé en amont un testament. Mais cette loi a rencontré l'hostilité de la droite et de l'extrême droite. Écoutez Santiago Abascal, leader de Vox.
La loi d'euthanasie est une défaite de la civilisation. On ouvre la porte à l'homicide légal, à l'horreur déguisée en compassion.
La loi qui reconnaît tout de même le droit aux médecins de faire valoir leur objection de conscience entrera en vigueur après validation du Sénat en janvier.
Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Retour en France avec cette information qui va intéresser les automobilistes. Les tarifs des assurances font le grand écart en fonction des départements. Conclusion d'une étude de Meilleure Assurance. Le comparateur vient de dresser une carte de France où l'on découvre, Olivier Samin, qu'il vaut mieux habiter dans le 79 que dans le 13.
Oui, si votre premier critère pour choisir votre lieu d'habitation en France, c'est le prix de votre assurance auto, alors aucune hésitation, installez-vous dans les Deux-Sèvres. C'est là qu'on paye le moins cher pour assurer sa voiture. 443 euros par an en moyenne pour un couple de 36 ans avec 2 enfants qui roule en Peugeot 3008. Le même couple roulant dans la même voiture et optant pour le même contrat paiera 827 euros s'il choisit d'habiter à Marseille. 86% plus cher. D'après le comparateur Meilleure Assurance, le pourtour méditerranéen, suivi de près par l'Île-de-France, sont les deux régions où les tarifs de l'assurance auto sont les plus élevés. Et à l'opposé, c'est dans les départements ruraux que les tarifs sont les plus doux. Les Deux-Sèvres donc, mais aussi la Corrèze, la Creuse, les Côtes-d'Armor ou encore la Vendée. L'explication est simple, moins il y a de voitures en circulation, moins il y a de risques d'accident. Et plus facilement, on peut mettre à l'abri sa voiture plutôt que de la laisser dehors en stationnement, exposée au risque de dégradation. Dans les départements urbains, c'est tout le contraire. Et, facteur aggravant, les voitures y sont généralement plus récentes, donc avec des coûts de réparation plus élevés. Tout ça, il n'y a pas de mystère. Ça se retrouve dans les tarifs.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Le sport avec un cocorico. Les Bleus UES se sont qualifiés tout à l'heure pour la finale de l'Euro de handball. Victoire 30 à 19 face à la Croatie. Les Françaises tenantes du titre ont une nouvelle fois été emmenées par une épatante Estelle Enzeminko. 4 buts ce soir et le sentiment du travail accompli.
Ouais, j'avoue, je suis un peu stone. Franchement, j'ai traversé la journée avec pas mal d'excitation, de pression aussi, de bonne pression. Et là, c'est vrai qu'après ce match-là, je m'autorise là toute la soirée à être un peu KO, à kiffer sans trop me poser de questions, à regarder le match qui vient. Enfin là, clairement, on est dans un confort là pour les 2-3 heures à venir qui est majestueux, quoi. D'être qualifié pour la finale, de pouvoir regarder déjà un match de notre futur adversaire. Je suis un peu fatiguée aussi, soulagée, donc il y a tout un peu qui retombe, mais je suis bien. tranquille.
Estelle Nzeminko, jointe pour Europe 1 par Axel May. Les Bleus affronteront dimanche les Norvégiennes qui ont battu, il y a quelques minutes, les Danoises. En foot, Gérard Lopez, le propriétaire du LOSC, a vendu le club lillois à un fonds d'investissement luxembourgeois. Olivier Létang, l'ancien dirigeant du PSG et du Stade Rennais, devient le nouveau président des Dogs. On passe à la météo. Anissa Haddadi, le temps demain sera plus perturbé.
Oui, avec dès demain matin, Julien, de la Normandie aux Hauts-de-France, un temps légèrement pluvieux. Alors c'est une perturbation qui traverse le pays en effet demain, mais une perturbation peu active. Dans l'après-midi, des Hauts-de-France jusqu'au Pays Basque, donc sur une belle moitié ouest du pays, le ciel reste couvert, l'après-midi sera pluvieuse. Et puis à l'avant de cette perturbation, en Alsace, vallée du Rhône, Massif central et sur les Pyrénées-Orientales, là le temps est sec, mais le ciel est tout de même assez voilé. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Et puis vous aurez des averses, de l'eau sur les reliefs dans le sud-est. Sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, toujours ce vent d'ouest qui souffle demain en rafale jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles sont stationnaires et toujours au-dessus des normales de saison avec 3 à 9 degrés sur l'ensemble du pays. Demain matin, 9 à 12 au bord de la Méditerranée sous les nuages. Et dans l'après-midi, nous aurons 9 à 17 degrés. 9 pour Belfort, 12 à Paris et 17 à Bastia.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview éco. C'est le début des vacances scolaires. Est-ce que les Français seront nombreux à partir pour les fêtes? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité Jean-Pierre Mas, le président des entreprises du voyage. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à tous. C'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street marque une pause alors que ses grands indices ont battu de nouveaux records historiques hier soir.
Oui, une fin de semaine dans le rouge après les sommets touchés hier. Le Dow Jones perd 0,38%, 30 187 points. Le Nasdaq, moins 0,07%, 12 755 points. Les marchés sont toujours dans l'attente du plan de relance américain, plan de 900 milliards d'euros pour doper la reprise économique. Et puis les tensions commerciales reprennent avec Pékin. Washington a inscrit le plus grand fabricant de puces chinois, SMIC, et une soixantaine d'entreprises chinoises supplémentaires sur une liste noire. Alors c'est un peu le barreau d'honneur de Donald Trump avant de quitter la Maison Blanche et ça inquiète les marchés.
Assurément, ce ne sera pas le dernier, je pense. L'action Tesla a encore atteint un plus haut historique pendant la séance, Claire.
Oui, ça monte encore pour Tesla, plus 1,5%. Tesla qui fera son entrée lundi sur le S&P 500. Le constructeur de véhicules autonomes dirigé par Elon Musk deviendra l'entreprise la plus chère à intégrer l'indice de référence. Et puis, autre valeur suivie ce soir, le laboratoire Moderna. Les experts américains ont recommandé l'autorisation de son vaccin contre le coronavirus. Le feu vert officiel est donc imminent. L'action perd tout de même 2,6%. Ce deuxième vaccin après celui de Pfizer et BioNTech est très attendu aux États-Unis où la pandémie, vous le savez, fait des ravages.
À Paris, la séance a encore été très calme pour le CAC 40 qui termine la semaine en toute petite baisse.
Oui, encore une séance sans grand mouvement. Le CAC 40 perd 0,39%, 5527 points, marché prudent au rythme des discussions sur le Brexit en Europe qui ont bien du mal à avancer. Côté valeur, lourd repli pour Saint-Gobain. Le titre est rattrapé par l'incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017 qui avait fait 72 morts. L'entreprise française avait fourni des composants utilisés pour le revêtement de ce chantier et une enquête est en cours et ça inquiète les investisseurs. Saint-Gobain perd 4,3%.
Et le titre Vivendi signe une des plus fortes hausses du jour sur le CAC 40.
Oui, plus 2,3% pour Vivendi. Le chinois Tencent a exercé son option pour acquérir 10% supplémentaire du capital d'Universal Music, filiale musicale et principal actif du groupe français. La fin de semaine a été plutôt morne sur les marchés européens. Londres recule de 0,3%, moins 0,3% aussi pour Francfort, Milan moins 0,2%, Madrid cède 1,4% et le CAC 40 perd 0,4% également, 5227 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à lundi. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-Pierre Mas.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président des entreprises du voyage et le syndicat qui regroupe notamment les agences de voyage. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que notamment pour les élèves, ce sont les vacances ce soir. Alors déjà, première question toute simple. Par rapport à des vacances de Noël normales, est-ce qu'il y a quand même des gens qui partent en vacances ?
Oui, il y a des gens qui partent en vacances. C'est la première fois que la chape de plomb se soulève un petit peu. Mais il y a quand même deux fois moins de Français qui prendront des vacances cette année à Noël que l'année dernière.
Alors, il y a moins de monde, j'imagine, en partie parce que l'on ne peut pas aller au ski. Le ski, c'est une bonne partie quand même, traditionnellement, des personnes qui ont la chance de pouvoir profiter des vacances de fin d'année.
C'est la première destination de vacances pour les vacances de Noël. Et les Français qui avaient réservé des séjours dans les Alpes ou dans les Pyrénées ont annulé pour la plupart leur séjour, soit pour rester chez eux, soit pour faire des micro-vacances pas très loin de chez eux, soit pour partir à l'étranger.
Maintenant que l'on sait que l'on va quand même pouvoir faire des balades en raquettes, que l'on va quand même pouvoir profiter de la montagne, il n'y a pas des arrivées de dernière minute, des envies de dernière minute ?
Il y en aura parce qu'il y aura de la place, notamment dans l'hébergement individuel, familial. Mais les clubs, les grands centres d'hébergement, le Club Med, la Grange, Pierre et Vacances, ont fermé leurs établissements. Donc il n'y aura pas de possibilité de loger dans des grandes structures, ne serait-ce que parce que les restaurants et les cafés sont fermés, ce qui rend un petit peu compliqué un séjour à la montagne.
Et la plupart également des piscines, hein, puisqu'il n'est pas possible, notamment absolument, pour les résidences de vacances, d'ouvrir leurs espaces de piscine. Est-ce qu'il y a un report vers les stations du littoral ? C'est-à-dire se dire quand même qu'après cette période si particulière, on a envie de prendre l'air.
Le report vers les stations du littoral est très faible parce que là aussi, peu d'établissements sont ouverts pour les fêtes de fin d'année. Le beau temps est loin d'être garanti sur le littoral français pour la période de Noël. Donc le report se fait plutôt vers l'étranger. Il s'est fait un petit peu vers la Tunisie, où on peut accéder si on a acheté un forfait sans test PCR. Un petit peu sur le Maroc, beaucoup plus fortement sur les Canaries, pour les destinations proches de la France, pas trop éloignées. Ensuite sur l'Égypte et essentiellement sur l'Outre-mer.
Oui, alors je crois que l'Outre-mer, c'est même la destination qui est à peu près étale par rapport à la même période de l'année dernière. C'est-à-dire qu'il va y avoir autant de monde à partir en Outre-mer qu'à Noël dernier. Comment ça s'explique ?
Alors, les réservations dans les avions à destination de l'Outre-mer sont à peu près au niveau de l'an dernier. Elles ont été beaucoup plus tardives. C'est des réservations de dernière minute. Ça s'explique par les mouvements naturels que l'on appelle affinitaires des populations antillaises qui travaillent en métropole ou métropolitaine, qui rejoignent leur famille aux Antilles ou à La Réunion, et par un flux touristique qui est redevenu presque normal, pas tout à fait normal, presque normal à destination de l'Outre-mer, parce que l'Outre-mer, c'est la France, parce qu'en Outre-mer, on sait qu'on ne sera pas pris en otage si la frontière est fermée, et parce qu'en Outre-mer, on sait que si on était malade, malheureusement, on serait soigné par des médecins français dans un milieu hospitalier, un environnement hospitalier et médical qui est le même que celui de la France.
Qui sont ceux qui partent principalement en Outre-mer ? Est-ce que ce sont des ultramarins qui en ont ras-le-bol de ne pas avoir pu aller chez eux, ou est-ce qu'il y a également beaucoup de métropolitains qui vont tout simplement chercher le soleil et des endroits, il faut bien le reconnaître, extrêmement agréables ?
Les deux, Emmanuel Duteil, les deux. Les ultramarins, en effet, on peut voyager cet été pour rejoindre leur famille. Donc c'est vrai que c'est l'essentiel des voyageurs pour la période de Noël et du jour de l'an, mais également des métropolitains qui vont chercher le soleil en Outre-mer, comme ils vont également le chercher en République dominicaine, mais qui ne peuvent pas aller le chercher, par exemple, à l'île Maurice, qui était la grande destination des vacances de Noël, parce que l'île Maurice est complètement fermée aux touristes et n'accueille pas d'étrangers. Donc ils se sont rabattus, en quelque sorte, sur la Guadeloupe, la Martinique et accessoirement sur la Réunion.
Alors ça, c'est pour Noël. Est-ce que vous commencez à avoir un tout petit peu de visibilité pour les vacances de février, voire les vacances de Pâques ?
Pour les vacances de Pâques, on n'a strictement aucune visibilité parce que les Français n'osent pas anticiper aussi loin. Et les événements des deux ou trois derniers jours, la remontée des taux de contamination, vont ralentir encore la petite visibilité que l'on avait.
Vous, c'est automatique, vous le sentez. Dès qu'on commence, nous médias, à mettre en avant une remontée hein, qui est réelle là, depuis quelques jours, tout de suite, ce petit élan s'arrête
immédiatement et dans les deux sens. Quand Emmanuel Macron a annoncé le déconfinement, on a eu un flux de vacances, un flux de réservations. Quand Jean Castex a dit qu'on pourrait passer les vacances aux Antilles et à La Réunion, il y a eu à nouveau un flux de réservations. Et depuis deux ou trois jours, parce qu'on sent que la chute de la contamination est arrêtée, eh bien, depuis deux ou trois jours, on a un frein dans ces réservations. Donc, et ces réservations sont à très court terme. On a quelques réservations pour le mois de janvier. C'est un niveau, pas au niveau de l'an dernier, mais un niveau qui commence à être intéressant, mais très peu pour les vacances de février et presque pas pour les vacances d'avril.
Du coup, c'est extrêmement compliqué pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Je le rappelle, vous représentez notamment les agences de voyage. Comment font-elles ? C'est du stop and go à longueur de temps.
Le secteur est totalement sinistré, jusqu'à maintenant, et espérons que ça dure, bien aidé par le gouvernement. Mais ensuite, il faut s'adapter. C'est très compliqué de construire une offre pour la semaine prochaine. Il faut trouver les avions, les hôtels, et puis il n'y a pas que les Français qui voyagent, tous les citoyens du monde qui sont amenés à voyager. Donc le fait qu'on n'a pas de délai entre la décision de vacances et la réalisation des vacances rend le travail extrêmement compliqué, et c'est une complication qui s'ajoute au fait qu'on est à 25-30% du niveau d'activité de l'année dernière.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était Jean-Pierre Mas, le président des entreprises du voyage, donc qui regroupe notamment les agences de voyage. Un grand merci à vous. Nous, on se retrouve lundi, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Emmanuel, que l'on retrouvera lundi également à partir de 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Chaque jour, un grand patron nous raconte comment il se réinvente face aux défis actuels. Lundi, ce sera Guillaume Motte, le patron Europe de Sephora. On verra si les parfums ont toujours la cote à l'approche de Noël. Restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Covid, la vague à l'âme, titre Libération. Spleen, blues, down, si le moral des Français en prend un sérieux coup avec les confinements successifs, certains scientifiques rappellent qu'il s'agit dans la plupart de cas de déprime et non de dépression. Il n'empêche, sur un terrain français déjà enclin au coup de spleen, la crise sanitaire a fait sombrer les plus fragiles dans une détresse psychologique qui laisse entrevoir un prolongement de la crise sanitaire au niveau de la santé mentale, écrit Libération. Et la période des fêtes ne va rien arranger. 10% des Français vont passer seuls le réveillon du 24 décembre, selon l'IFOP. C'est deux fois de plus que l'année dernière. Ouest France s'intéresse aux derniers achats avant Noël. Une affluence sous surveillance, titre le quotidien régional. Le week-end qui arrive est synonyme de ruée dans les magasins. Or, la règle est très claire. Pas plus d'un client pour 8 mètres carrés de surface. Une règle que va faire respecter la police, annonce Ouest France. Comment la police veut contenir les Black Blocs, titre de son côté le Figaro. Une réflexion est en cours pour mettre fin à ce phénomène de casseurs ultra-organisés qui saccagent tout sur le parcours des manifestations. La solution pour les policiers, muscler le renseignement, davantage se fondre dans la foule pour identifier les casseurs, mieux filmer les flagrants délits, pratiquer le corps à corps. Autre piste évoquée, des procédures pour associations de malfaiteurs à lire demain donc dans le Figaro. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Ça va, merci.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la Libre Antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Et on vous récupère dans une demi-heure maintenant pour les prochaines infos.